Chapitre 6. La plupart des terriens suivirent la retransmission télévisée en direct de la cérémonie qui se déroula quelques heures avant l'appareillage de la Pinta pour Mars. R. Heinrich Genzer, un des deux vice-présidents du CDG, avait gagné GEO-4 pour faire une brève allocution. Il parla de l'achèvement des trois grands vaisseaux et du début d'une nouvelle ère de colonisation martienne, puis céda la place au commandant de la Pinta, Ian Macmillan. Cet Écossais, orateur soporifique et représentant caricatural de la bureaucratie de l'ASI, lut ensuite un discours de 6 minutes rappelant les objectifs du projet. Ces nefs emporteront 2000 personnes vers Mars, une planète éloignée de 100 millions de kilomètres où l'homme s'implantera de façon définitive. La plupart des futurs colons voyageront dans le deuxième vaisseau, la Niña, qui partira de GEO-4 dans 3 semaines. Quant à la Pinta et à la Santa Maria, elles renfermeront dans leur flanc 300 passagers et des tonnes de matériel et de provisions. En prenant soin de ne pas faire allusion à l'abandon des premiers avant-postes martiens au cours du siècle précédent, il compara cette aventure à l'expédition effectuée par Christophe Colomb 750 ans plus tôt. Le texte était excellent, mais sa voix monotone le privait de tout son lyrisme. Macmillan termina son discours par des statistiques sur les tranches d'âge, les professions et les pays d'origine des volontaires. Ces hommes et ces femmes représentent presque l'ensemble de l'humanité. J'ai bien dit presque, car ils possèdent deux caractéristiques qui font défaut à bien des habitants de la Terre. Leur EI moyen est de 1,86 et ils ont tous beaucoup de courage pour avoir décidé d'aller vivre pendant 5 ans dans un milieu inconnu. Lorsqu'il eut terminé, on lui remit une petite bouteille de champagne qu'il brisa sur une maquette au 1/100 de la Pinta. Pendant que les colons sortaient de l'auditorium, puis embarquaient à bord de la Pinta, Macmillan et Genzer donnèrent comme prévu une conférence de presse.
Quel taré!
Il est compétent, en tant que bureaucrate.
Je maintiens que c'est un idiot.
Max Puckett et le juge Mishkin déjeunaient et parlaient du commandant entre deux bouchées.
Il n'a aucun sens de l'humour.
Max bouillait de colère. Plus tôt dans la matinée, il avait comparu devant un tribunal composé d'officiers supérieurs de la Pinta, et si son ami n'avait pas assuré sa défense, la procédure eût sans doute donné lieu à des excès.
« Ces connards n'avaient pas le droit de juger ma conduite !»«
Vous avez raison, mon ami. Mais jusqu'à notre arrivée à destination et l'organisation d'élections, ils sont les seuls maîtres à bord. C'est quoi qu'il en soit sans importance. » Qu'ils aient déclaré votre comportement intolérable ne vous portera pas préjudice. Ils auraient pu prendre des sanctions contre vous. Ils avaient franchi 2 jours plus tôt le point médian du parcours entre la Terre et Mars. Et au cours de la soirée donnée à cette occasion, Max avait tenté de séduire Angela Rendino, une assistante de Macmillan. L'Écossais lui avait intimé de la laisser tranquille.
Si je l'importune, « c'est à elle de me le dire !»
rétorqua Max. « Elle est inexpérimentée et bien trop gentille pour vous faire part du dégoût que vous lui inspirez. »«
À quel titre intervenez-vous, commandant? C'est votre chasse gardée ou quoi ?»
Ian Macmillan vira au pourpre. « Monsieur Puckett, si vous persistez dans cette attitude, je me verrai contraint de vous faire mettre aux arrêts dans vos quartiers. » Pour Max, la soirée était gâchée. Que le commandant se fût prévalu de l'autorité propre à son grade dans le cadre d'un conflit d'ordre privé, l'écœurait, et il regagna sa cabine. Après avoir vidé une bouteille de tequila, Max céda au mal du pays et décida d'aller au centre de télécommunication pour raconter l'incident à son frère. Il lui fallait pour cela traverser le vaisseau. Il passa devant le grand salon où la fête venait de prendre fin, puis emprunta la coursive des quartiers des officiers. Ce fut alors qu'il vit Angela Rendino entrer dans la cabine du commandant.
« Le salopard !»
grommela Max. Il faisait les 100 pas devant la porte des quartiers de Macmillan, fou de rage, quand il eut une idée. N'avait-il pas remporté le premier prix lors d'un concours d'imitateurs de cris porcins, à l'époque où il fréquentait l'université de l'Arkansas? Un grognement épouvantable brisa le silence de la nuit. Max recommença, puis prit ses jambes à son cou, à l'instant où toutes les cabines s'ouvraient, celle de Macmillan incluse. Le commandant de bord n'apprécia guère que ses subordonnés puissent le voir en compagnie de Mademoiselle Rendino, d'autant plus qu'ils étaient tous deux nus comme des vers. Pour Kenji et Nai, la traversée était une seconde lune de miel. Le voyage se déroulait sans incident, selon le point de vue d'un historien, et Nai avait de nombreux loisirs, car la plupart de ses élèves avaient embarqué à bord des autres vaisseaux. Souvent, les Watanabe passaient leur soirée en compagnie du juge Mishkin et de Max Puckett. Ils jouaient aux cartes. Max était aussi redoutable au poker que nul au bridge, ou parlait de leurs espoirs et de ce qu'ils avaient laissé derrière eux. Quand Mars ne fut plus qu'à 3 semaines de voyage, l'équipage conseilla aux passagers de joindre leur famille, car une interruption momentanée des liaisons radio était prévue. C'était la fin de l'année sur la Terre et le moment idéal pour vidéophoner. Exaspéré par les délais de transmission qui réduisaient les entretiens à de longs monologues, Max informa Clyde et Winona qu'il ne les contacterait plus. Il en avait assez d'attendre un quart d'heure pour savoir s'ils avaient ri de ses bons mots, leur précisa-t-il. Il avait neigé sur Kyoto et les Watanabe passèrent une vidéo de Ginkakuji et de l'Onen Inn sous un manteau blanc. S'il n'avait pas eu Nai à ses côtés, Kenji eût certainement souffert du mal du pays. Nai appela quant à elle la Thaïlande et félicita une de ses sœurs qui venait d'obtenir une bourse pour entrer à l'université. Quant à Piotr Mishkin, il ne contacta personne. Il était veuf et sans enfant. « Je garde de la Terre des souvenirs merveilleux », confia-t-il à Max, « mais il ne me reste plus rien là-bas. » Le jour où les télécommunications furent coupées, on annonça qu'un programme concernant tous les passagers serait diffusé à 14 heures. Kenji et Nai invitèrent Max et le juge Mishkin à se joindre à eux dans leur petit appartement pour y assister.
« Je me demande de quoi ils veulent nous parler »,
grommela Max, irrité par ce qu'il assimilait à une perte de temps. Au début de l'enregistrement, le président du CDG et le directeur de l'ASI étaient assis côte à côte derrière un grand bureau. Le premier mit l'accent sur l'importance du message qu'allait leur transmettre Werner Kor.
« Passagers de la Pinta !» commença ce dernier. « Il y a 4 ans, nos satellites de surveillance ont capté un signal en provenance de l'espace interstellaire, une transmission vidéo que vous visionnerez sous peu dans sa totalité. Elle nous annonce le retour d'un vaisseau Rama. En 2130 et 2220, des cylindres géants de 50 km de long sur 20 de diamètre, créés par une intelligence extraterrestre inconnue dans un but que nous ignorons encore, ont traversé le système solaire. Le deuxième visiteur, que nous avons baptisé Rama 2, a effectué dans l'orbite de Vénus une modification de cap qu'il a placée sur une trajectoire de collision avec la Terre. Le CDG a fait lancer une salve de missiles nucléaires pour le détruire avant qu'il ne soit assez près de notre monde pour y semer la dévastation. Il est annoncé dans le document que vous allez voir qu'un autre de ces vaisseaux vient se procurer à des fins d'observation 2000 êtres humains représentatifs de la population de la Terre. Il est important de noter que notre radar a signalé il y a 1 mois la mise en orbite autour de Mars d'un engin de type Rama. Il en découle qu'il convient de prendre ce message au sérieux. C'est pourquoi les passagers de la Pinta iront à ce rendez-vous avec Rama. Nous sommes conscients que c'est un choc pour vous, mais nous n'avons pas eu le choix. S'il s'agit d'une mystification, vous entreprendrez la colonisation de Mars comme prévu. Mais si l'enregistrement que vous allez visionner est authentique, ce sont les humains embarqués à bord de la Pinta, de la Niña et de la Santa Maria que l'intelligence raméenne pourra observer. Il va de soi que cette mission a pour le CDG une priorité absolue et qu'il est indispensable de la garder secrète. C'est pourquoi toutes les liaisons radio entre votre appareil et la Terre seront à l'avenir censurées. Nous annoncerons à vos familles que vous êtes tous arrivés sains et saufs sur Mars, mais que vos systèmes de télécommunications sont en panne. Nous avons décidé de vous passer dès à présent cette vidéo afin que vous disposiez de 3 semaines pour vous préparer. Chacun de vous aura des tâches spécifiques à exécuter et recevra les informations nécessaires à leur accomplissement. Tous nos vœux vous accompagnent. Il est probable que ce n'est qu'un canular qui n'aura d'autre effet que de retarder votre installation sur Mars. Mais si ce document est authentique, vous devrez tout préparer pour l'arrivée de la Niña et de la Santa Maria, dont les passagers n'auront pas été informés au préalable de l'existence de Rama et du changement de nature de leur mission. Tous restèrent muets pendant que les mots « prochaine vidéo » dans 2 minutes, défilait sur l'écran.
« Nom de Dieu !»
se contenta de dire Max Puckett.